Écoutez les spectateurs, vous.
Il est 9h41, l'émission C'est l'instant M qui apprend aussi des choses en regardant la télé.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Demain soir, soirée événement sur France 2, épopée des gueules noires. Archives et témoignages de mineurs pour raconter un pan immense du roman national. Car la mine fut lieu de vie, de mort, de rites et de traditions. Elle fut surtout la pierre angulaire de la croissance française dont il fallut faire du forçat un héros. Héros tantôt glorifié, tantôt sacrifié, tantôt réprimé. Héros enfin littéralement abandonné. La mine, vaste enjeu politique, terrain des luttes et des idéologies qui ont traversé tout notre pays. Un duo d'auteurs réalisateurs, Hugues Nancy et Fabien Béziat, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous signez deux films qui vont être diffusés l'un à la suite de l'autre, L'épopée des gueules noires, dont on va parler ce matin, et ce sera suivi de Une vie après la mine. Alors on commence par une touche d'actu média et puis on y va. Bienvenue à vous tous, hashtag Instant M.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Voilà, on savait le très rentable groupe AB à vendre. C'est l'un des derniers poids lourds de l'audiovisuel indépendant en France. Eh bien, c'est fait, c'est Media One qui leur achète le fonds créé par Xavier Niel, propriétaire de Free et du journal Le Monde avec Mathieu Pigas. Également dans Media One, Pierre-Antoine Capton, le producteur de C'est à vous. Alors, AB possède 19 chaînes payantes comme RTL9 ou AB Moteur, 12 000 heures de séries dont le très culte Hélène et les garçons, vous venez d'entendre, mais aussi des polars comme Engrenage. Les acquéreurs comptent s'appuyer sur ce socle pour construire un groupe européen. D'autres achats vont donc suivre de manière imminente.
Au-delà des faits, au-delà des images, au-delà des gros titres, I24 News, voir plus loin.
I24, c'est la chaîne d'infos en français, en anglais, en arabe que Patrick Drahi, propriétaire de SFR, hein, c'est la matinée des moguls, a lancé en Israël il y a 3 ans et qu'il va étendre dans 15 jours aux États-Unis avec des bureaux à New York et à Washington, a-t-il annoncé, le tout avec un tout petit budget, croit savoir ce matin Les Échos. Paris risqué, évidemment, tant le marché de l'information continue et disputé outre-Atlantique, voire saturé. Enfin, Lactalis, on l'a appris vendredi, a rompu les contrats des exploitants agricoles qui avaient témoigné dans l'enquête d'envoyé spécial diffusée en octobre dernier sur France 2 et intitulée « Lactalis, le beurre et l'argent du beurre ». On y voyait en effet les éleveurs se plaindre face caméra des rémunérations pratiquées par le géant laitier. Voilà.
Du charbon. La France se chauffera-t-elle? L'industrie pourra-t-elle fonctionner? Les roues tourner? Les métiers travailler? C'est de la mine que tout dépend. Les hommes du pays noir ne sont pas avares. Le pays leur a demandé un effort gigantesque, ils l'ont fait. Le mineur est l'homme qui, en France, a fait à la cause générale le plus de sacrifices. Il a accepté de travailler le dimanche. Il a sacrifié ses congés. Il a travaillé plus vite et plus fort.
Voilà, extrait de cette épopée des gueules noires que nous verrons demain soir sur France 2. Donc, mes invités sont Hugues Nancy et Fabien Béziat. Vous êtes les deux auteurs de ce premier film qui sera suivi d'un second film. Peut-être un mot pour dire que ce film est entièrement raconté par Jacques Bonnafé et que Jacques Bonnafé, il n'a pas du tout le timbre habituel des voix de documentaires, Fabien Béziat.
Oui, alors Bonnafé, c'était un choix qui a été très rapidement évident parce que Bonnafé en fait a une histoire en fait avec la mine, mm-hmm. C'est-à-dire que dans sa famille il y avait des mineurs. Il nous a raconté avec beaucoup de passion en fait comment sa grand-mère avait participé aux premières grèves de 41. C'est quelque chose qui l'a marqué. C'est un auteur et un comédien en fait qui est très attaché à l'histoire ouvrière. Il a un site en fait où il a qui s'appelle Cafougnette, en fait, où il a valorisé l'histoire d'un personnage, en fait, qui existait, qui fait partie de la littérature mineure. Ce qu'il faut dire, c'est que chez les mineurs, en fait, il y a une littérature populaire. Il y a eu beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs, beaucoup de poésie. Et Bonnafé, qui est très, très impliqués en fait.
Voilà, s'en fait le porte-voix. Et ils sont encore là, les mineurs, ils sont encore là pour raconter. Ils, ce sont les Galibots, les enfants des mines. En 1813, on descendait à la mine dès l'âge de 8 ans, en 1848 à 10 ans, en 1874 à 12 ans. Et dans les années 70, on devenait mineur à 14 ans.
Quand la maman vient vous chercher, vous réveillez. Vous n'osez pas lui faire voir que vous avez peur. Parce que elle, elle a peur. Elle vous donne votre musette. Elle vous accompagne à la porte. Et puis vous partez. Et là, vous n'osez pas vous retourner. Parce que vous savez qu'elle pleure.
J'ai cru que j'allais mourir. Un barrois descendait à la vitesse de 16 mètres secondes. C'est impressionnant. J'ai cru que j'allais crocher mon cœur. J'arrive au fond de la mine, les oreilles bourdonnent, pire que l'avion. Il y a un jeune galibot comme moi qui commence à charger le charbon dans les wagonnets. La poussière, je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette bêtise que j'ai fait? Trop tard. Je peux pas faire marche arrière. Je peux pas faire marche arrière pour pas que le père y ait honte.
Voilà, la remontée, ça a toujours été une renaissance, même à la fin, dira ce témoin. Hugues Nancy, donc ce film est un mélange d'archives, mais aussi de mineurs, parce que la mine, ce sont des vies, et ce sont des vies entières que vous retracez. Et ils le disent bien, finalement, cette première descente à la vie, c'est pas tellement un choix, c'était toute une vie, tout un héritage, toute une famille, tout un quotidien qui s'engouffrait avec eux dans la mine.
Ce qui nous a frappé avec Fabien, c'était l'intemporalité de ces témoignages et la force de ces témoignages qui, en fait, étaient représentatifs de la vie dans la mine, mais que ce soit à la fin du 19e, au début du 20e, ou eux, quand ça leur est arrivé, dans les années 60. Et qu'il y a quelque chose d'assez incroyable, mais qui est à l'image de ce qu'on a voulu raconter dans ce film, c'est que c'est notre histoire. En réalité. Et c'est une histoire que nous avons oubliée, mais c'est l'histoire, notre histoire économique, c'est notre histoire politique, c'est notre histoire ouvrière qui s'est organisée autour des puits de mine. Et il était important pour nous qu'elle soit incarnée par ces témoins qui racontent leur vie. Et ce qui était très frappant quand on a réalisé ces interviews, vous venez d'en passer une très émouvante, c'était cette sensibilité à fleur de peau, c'était des hommes durs qui avaient vécu une histoire incroyable.
Et cette forme aussi de nostalgie, parce que là aussi, il y a quelque chose d'intemporel, c'est la persistance de la culture minière. Vous vous racontez bien, on vit à la mine, on mange à la mine, on est logé à la mine, on prie, on s'instruit à la mine, on est soigné à la mine, on part en vacances avec la société minière. C'est une culture d'entraide et de solidarité. Vous faites ressortir cette culture où la musique est omniprésente, où les jeux, les carnavals, les bals. Et c'est tout aussi important que ce qui émaille finalement votre film, c'est-à-dire, Fabien Béziat, la présence de la mort et de ses rites. C'est quelque chose de très fort.
Alors, la mort et les rites, c'est le socle, en fait, de la culture minière. C'est-à-dire que quand on a regardé les archives, et on a regardé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, des centaines d'heures d'images, il y a un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a une archive institutionnelle, mécanique, il y a une archive des luttes sociales, et il y a une archive, en fait, sur les deuils. Et c'est vraiment l'articulation sociale,
en fait,
de la mine.
Et là, il y a des images qui sont époustouflantes.
Oui, les images sont très, très fortes, mais parce qu'en fait, ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'à la mine, quand il y avait un deuil, c'était un deuil national. C'est-à-dire que...
On voit des villes entières.
Des villes entières qui étaient soulevées. Il y avait vraiment, c'était vraiment le poumon, en fait, du monde ouvrier français.
Et puis vous racontez, 1906, dans le Pas-de-Calais, 1055 ouvriers brûlés vifs, par un ouragan de feu, les coups de grisou qui ont comme ça scandé l'histoire de la mine pendant 150 ans.
C'est tout du long, en fait. Des accidents, il y en a eu énormément. Et c'est vrai que l'appréhension de la catastrophe, c'est-à-dire que ce qu'il faut mesurer, c'est comment en fait on vit avec l'attente du deuil. C'est-à-dire que là, ça crée des... Ça crée des typologies aussi de relations amicales, sociales, parce que il faut dépasser en fait le choc. Il faut dépasser cette tristesse. Et donc c'est pour ça que la vie est aussi débouillonnante, en fait. C'est très fort.
Et aussi solidaire.
Et c'est pour ça que c'est comme ça que s'est instaurée la mythologie minière. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'on demandait à des gens de risquer leur vie tous les jours et ils devaient le faire pour le bien de l'économie française, parce que sans charbon, rien ne fonctionnait.
Alors on va écouter justement deux anciens mineurs.
Comme à l'armée, l'organisation.
Oui, nous avons beaucoup de terres militaires. Donc par exemple, nous avons gagné la bataille du charbon. Pourquoi nous allons à Frontaille. Quand un mineur meurt au fond, Il meurt au champ d'honneur du travail. Ça, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Dire ça, ça, moi, ça me glace à chaque fois, quoi. Dire mort au champ d'honneur du travail. Comme s'il y avait un honneur à mourir pour produire quelque chose. Pour gagner sa croûte. Voilà. Et c'est ça.
Eh ben, l'honneur, justement, il se fabrique. Hein. C'est une histoire de grande fabrique idéologique, l'histoire de la mine, Hugues Nancy.
Oui, parce que c'était d'une telle violence. Quand toute une, il faut bien imaginer que les compagnies minières ont créé de toutes pièces des villes entières dans des déserts ruraux, et que donc toute la vie était organisée autour de la mine. Or, cette présence, cette peur, cette présence de la mort, elle était très présente. Comment supporter ça? Comment accepter que son enfant de 14 ans, puis de ou de 12 ans, puisse mourir dans la mine, parce que c'est important de remonter du charbon. Donc on a créé cette mythologie progressivement, où le mineur est devenu un mineur soldat, un combattant, parce que le soldat accepte son destin, et donc finalement, il est prêt à mourir. Et donc cette mythologie...
Et la patrie l'en remercie.
Parce que elle avait raison de le remercier.
Et en même temps, ce qui est passionnant dans votre film, à tous les deux, Fabien Béziat, c'est que cette mythologie ne cesse d'évoluer au gré des grands virages politiques que connaîtra l'Occident. C'est-à-dire que le héros de la patrie devient le héros du prolétariat ouvrier dans l'entre-deux-guerres, après la révolution de 17.
Elle évolue, en fait, effectivement, avec les grands mouvements politiques, mais elle évolue surtout avec les grands mouvements des luttes sociales. C'est-à-dire que les mineurs, nous, ce qui nous a passionnés, c'est qu'on voit vraiment, en fait, l'émancipation ouvrière, en fait, sur tout le siècle. Et là, la place, en fait, des combats a été tellement forte à un certain moment de l'histoire qu'effectivement, les partis politiques pratiquement se sont créés, on va dire. C'est-à-dire que le Parti communiste prend une puissance phénoménale, en fait, avec les mineurs. Ça devient vraiment le berceau, en fait, du Parti communiste pendant les années 20-30.
Et puis, il y a ce visage, Stakhanov.
Ouais, Stakhanov, voilà. Alors,
qui a dépassé largement la mythologie de la mine, où la productivité est associée au don de soi.
Complètement. Chacun s'approprie, en fait, effectivement, ces modèles, mais au-delà de Stakhanov, on voit vraiment les grands mouvements, en fait, qui ont émaillé notre siècle, c'est-à-dire d'un seul coup l'internationalisme d'un côté, et puis de l'autre côté les grands patrons, le grand patronat, le capitalisme du 19e, de l'industrie, de la révolution industrielle. En fait, voilà, il y a ces deux oppositions qui sont les oppositions du siècle.
Et puis cet extrait, Hugues Nancy, que je passais en tout début d'émission, c'est-à-dire l'après-guerre, la nationalisation des mines, Maurice Thorez, là c'est la bataille du charbon, là aussi c'est un grand moment finalement de fabrique idéologique, de propagande. Il faut pousser, mais il faut pousser les bassins miniers à se remettre au travail pour reconstruire la France.
Et on ne mesure pas justement quelle était l'importance du charbon. Si tout le gouvernement se mobilise, si on décide que le mineur est le premier ouvrier de France, qu'il est le sauveur de la patrie, qu'il est au sommet de la hiérarchie ouvrière, c'est parce que sans charbon, la France ne se relèvera pas de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, par exemple, nous qui avons été bercés par l'idée du nucléaire, du pétrole, des crises pétrolières, ce sont des histoires qu'on a oubliées. On oublie à quel point c'était essentiel, on oublie que c'était partout sur le territoire, et on oublie que c'était vital.
Alors,
et en fait, la bataille du charbon, c'est vital.
C'est ce que montre aussi votre film, c'est-à-dire comment progressivement on va abandonner la mythologie en abandonnant les mineurs. C'est-à-dire, à la toute fin, quand le nucléaire et le charbon prennent leur place, justement, on va chercher de la main-d'œuvre marocaine, et on voit bien que les Marocains n'auront jamais droit au roman national, Fabien Béziat.
Alors ça, c'est une partie qui est assez triste, effectivement, dans l'histoire.
Très sombre.
Parce que la réalité, c'est qu'en fait, c'est dès les années 60, l'histoire est un peu pliée. Donc, c'est très compliqué. Et les Marocains, quand on les fait venir, en fait, on sait qu'il va falloir fermer les mines. On sait qu'il va falloir qu'il y ait une population qui soit docile, qui ne soit pas militante, qui ne va pas s'inscrire dans le mouvement syndical. Et effectivement, on fait venir les Marocains, qui sont souvent acculturés, les plus pauvres. Et on les a pas reconnus après, c'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de discrimination, ils ont eu beaucoup de problèmes à avoir la même reconnaissance que les autres mineurs.
Ils n'ont pas fait partie de ce fameux roman national.
Non, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, dans les territoires, c'est encore une intégration qui est complexe.
Ouais.
Et c'est bien de rappeler en fait quelles sont les circonstances historiques.
On va écouter quand même un peu de la voix de Jacques Bonafé, forcément lisant le Zola.
Les hommes poussaient. Une armée noire vengeresse dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Lorsque Germinal est publié, Émile Zola, tel un prophète, lance même un cri d'alarme en direction des gouvernants. Hâtez-vous d'être juste, autrement voilà le péril. Les nations s'engloutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'histoire.
Alors oui, vous l'avez dit, Fabien Béziat, vaste terrain de l'apprentissage syndicaliste et politique, vaste terrain de lutte et enjeu électoral majeur que sont les bassins miniers. Et en même temps, Ignancy, on peut peut-être commencer par dire que, paradoxalement, c'était aussi des lieux de vie et des lieux de travail extrêmement contrôlés, des lieux clos et extrêmement contrôlés, soumis à un ordre.
Et c'est d'ailleurs, on le raconte un peu dans le second film qui suit dans la soirée, c'est que ce système hyper organisé, hyper cloisonné, où la vie sociale, mais comme la vie culturelle était organisée par le patron, mais même quand il s'agissait des charbonnages de France, c'est-à-dire l'État patron, hein, qui organisait de la même manière, c'était un système où très pyramidal, et ce dont souffre par exemple le Nord-Pas-de-Calais, passé le traumatisme de la fermeture des mines, c'est de sortir de cette culture-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle a organisé tellement la société que c'est très difficile pour du jour au lendemain pour des gens qui étaient habitués au collectif, au groupe, de se retrouver seuls face à l'adversité, seuls face à leur maladie, seuls face à leur recherche d'emploi, seuls face aux difficultés. Et que d'un seul coup, tout ce système pyramidal qui organisait la société a laissé les habitants des territoires, et notamment dans le Pas-de-Calais, un peu orphelins. Et que c'est une difficulté qui, du coup, n'est pas que économique, qui est aussi une difficulté psychologique, politique, et qui explique aussi qu'il y ait de la désespérance dans ces territoires.
Alors, Fabien Béziat, évidemment, le film est scandé là aussi par les grands soulèvements, par les grands mouvements sociaux. Ça va évidemment des mouvements de la fin de la Troisième République, mais aussi aux marches de la faim dans les années 30. La crise des années 30 a été absolument effroyable pour la mine.
La crise a été effroyable pour la mine, a été effroyable pour la France aussi. Et là, on le voit très spécifiquement, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu un retour très très violent, c'est-à-dire qu'on a expulsé les syndicalistes qui avaient trop milité, on a expulsé les Polonais qu'on avait fait venir à grand renfort après-guerre parce qu'en fait il y avait besoin de main-d'œuvre, et donc là il y a eu des vagues massives d'expulsion, et puis surtout...
Mais il y a eu aussi des grèves férocement réprimées en 1948.
Voilà, les grèves ont été très 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 violentes en fait, des 6000 arrestations, des morts, on n'imagine pas en fait, 100 000 soldats, l'armée, les chars envoyés contre les ouvriers, en fait, c'est pas pensable en fait aujourd'hui. Et là pourtant ça s'est passé, ça fait partie de l'histoire française, mais on a aussi une situation qui est complexe, c'est-à-dire ce qu'on disait par rapport aux politiques tout à l'heure, c'est qu'en 1947-48 ça dépasse le cadre national, c'est-à-dire que là d'un seul coup c'est l'opposition des deux blocs, c'est-à-dire que les mineurs deviennent le symbole de la grande Russie contre les États-Unis,
du pouvoir communiste, les États-Unis qui venaient reconstruire la France.
Voilà, le film raconte ça et c'est assez passionnant, je trouve.
Merci beaucoup à tous les deux. L'épopée des gueules noires, 21h sur France 2 demain, suivi d'une vie après la mine. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sana De Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Quelles sont les vertus thérapeutiques du jeûne, on se demande.
Du jeûne, ça veut dire pas manger.
Voilà, privation de nourriture pendant un temps donné, contrôlé médicalement, qui a peut-être des effets réels sur certaines pathologies. Vous pouvez poser vos questions au 01 45 24 7000.